Podcast préféré.
RFI, 9h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal de Paul Lonsin-Spinelli.
Avec à la une ce vacillement de la trêve entre Israël et le Hamas, le groupe palestinien refuse d'opter pour le nouveau plan américain visant à prolonger l'accord de cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne de Gaza, programme qu'Israël avait pourtant approuvé hier. Mais ce matin, l'État hébreu veut faire pression sur le mouvement islamiste en annonçant bloquer l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. On fait le point dans une minute avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Volodymyr Zelensky, entouré de ses alliés les plus solide à Londres, le président ukrainien va participer à un sommet avec une quinzaine d'autres dirigeants européens majoritairement. Un sommet sur la sécurité européenne et l'aide à l'Ukraine qui devient d'autant plus crucial après la discussion plus houleuse à la Maison-Blanche vendredi entre le dirigeant ukrainien et Donald Trump. Rien à redire, pas de défaut, Javier Milei s'est montré pleinement satisfait du bilan de sa première année à la tête de l'Argentine lors de son discours sur l'état de la nation hier. L'ultra-libéral argentin s'est notamment félicité de son plan tronçonneuse pour sabrer les dépenses publiques. Et puis, le plus grand festival de cinéma africain a rendu son verdict hier à Ouagadougou, le FESPACO, et son étalon d'or du Yenenga a sacré Dany Kouyaté pour son film Katanga ou la danse des scorpions. Une fissure qui craquelle à la trêve à Gaza. Le Hamas refuse d'accepter un nouveau plan américain pour prolonger la trêve. L'organisation islamiste exige en fait l'application de la seconde phase de l'accord initialement prévu avec Israël. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Jérusalem. L'État hébreu annonce donc ce matin qu'il suspend l'aide humanitaire qui entrait dans la bande terrestre.
Oui, le gouvernement israélien a ordonné à l'armée de fermer les points de passage vers Gaza alors que le Ramadan vient de débuter. Suspension donc de l'entrée de marchandises, notamment alimentaires, à destination des Gazaouis. C'est une première mesure, souligne un communiqué du bureau du Premier ministre israélien, qui menace d'autres conséquences si le Hamas n'accepte pas le plan américain de l'émissaire Steve Witkoff. Il s'agit de la prolongation de l'accord de cessez-le-feu pour les périodes du Ramadan et de la Pâque juive le mois prochain. La moitié des otages morts et vivants seraient libérés au premier jour de l'entrée en vigueur de ce plan qui a été accepté par la partie israélienne et le reste des otages seraient eux restitués à la fin de la période si un accord est trouvé sur un cessez-le-feu permanent. Le Hamas a donc rejeté cette proposition. Il exige de son côté l'application de la seconde phase de la trêve. Pour l'organisation islamiste, la proposition israélienne revient à se soustraire aux accords qui ont été signés. À ce stade, Israël affirme se préparer un retour au combat.
Michel Paul en direct de Jérusalem. Aux États-Unis, il avait été humilié, mais son visage crispé a laissé place hier à un sourire dans le bureau du Premier ministre britannique Keir Starmer. Après l'échange électrique en effet avec Donald Trump à la Maison-Blanche vendredi, Volodymyr Zelensky est arrivé hier à Londres. Il sera aujourd'hui au cœur d'un sommet d'une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. Une réunion sur la sécurité européenne programmée de longue date, mais dont la saveur a totalement changé depuis l'épisode du bureau ovale. Sarah Menaï.
Oui, bonjour Paul, bonjour à tous. Nous sommes à un moment crucial. Les mots ont été posés. Ils sont ceux du Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui a présenté les enjeux de ce sommet aux côtés d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Europe géographique, parmi lesquels Emmanuel Macron, encore la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Londres veut mobiliser aujourd'hui le vieux continent. Downing Street donne trois objectifs à ce sommet. Renforcer la position de l'Ukraine dans l'immédiat, notamment à travers un soutien militaire continu, réaffirmer la nécessité d'un accord qui garantisse une paix durable en Ukraine et enfin élaborer les prochaines étapes de la planification des garanties de sécurité, le fameux filet de sécurité demandé par Kiev, notamment à Washington. Alors les Européens tenteront de trouver une ligne commune tout en tentant de réparer la relation de Volodymyr Zelensky avec la Maison-Blanche, comme le lui conseille de le faire le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui sera lui aussi présent à Londres cet après-midi. Mais l'objectif, évidemment, il est aussi, eh bien, au niveau de la communication, de faire bloc derrière le président ukrainien.
Merci Sarah Menaï, correspondante d'RFI à Londres et en amont de ce sommet. Emmanuel Macron avait plaidé dans la presse hier pour le réveil stratégique européen. Le président français a relancé entre autres l'idée d'un bouclier nucléaire européen et appelé un financement massif de plusieurs centaines de milliards d'euros pour bâtir une défense commune. Donald Trump très investi donc dans les conflits au Proche-Orient comme en Ukraine et sur le plan de la politique intérieure, c'est un déluge de décrets qui ont été signés depuis son investiture. On sait désormais qu'en 40 jours au pouvoir, ce ne sont pas moins de 79 de ces directives présidentielles qui ont été paraffées. Jamais un président américain n'en avait signé autant depuis 1937. À titre de comparaison, son prédécesseur Joe Biden avait mis un an pour en adopter autant. Parmi cette montagne de décrets de Donald Trump, un ensemble de 6 précise les prérogatives de DOGE, cet organe institutionnel piloté par le milliardaire Elon Musk pour tailler dans les dépenses publiques. Une politique largement inspirée de Javier Milei, le président argentin, qui prononçait hier son discours de politique générale devant le Parlement. Et il n'a pas hésité à se lancer des fleurs pour décrire sa première année au pouvoir, en se félicitant des résultats économiques, donc de son plan dit tronçonneuse Théo Conscience.
15 mois après son arrivée au pouvoir, Javier Milei dresse un bilan selon lui sans appel.
L'état de la nation est aujourd'hui beaucoup plus prometteur qu'il y a un an.
Inflation annuelle divisée par 3, monnaie stabilisée, excédent budgétaire. Devant un parlement à moitié vide, le président argentin a défendu son bilan mais surtout sa recette. La désormais célèbre tronçonneuse grâce à laquelle il a réduit les dépenses publiques d'un tiers en un an.
La tronçonneuse est aujourd'hui le symbole d'un changement d'époque, le début d'une nouvelle ère de prospérité pour l'humanité. Et cette fois, plutôt que d'aller à contresens, l'Argentine est à l'avant-garde mondiale.
Javier Milei l'assure, Elon Musk, à qui il a personnellement offert une tronçonneuse dorée, s'inspire de ce qui se fait en Argentine pour réduire la taille de l'État fédéral américain. Après avoir licencié plus de 40 000 fonctionnaires, après avoir coupé dans les budgets des retraites, des aides sociales et des universités, le président argentin compte maintenir son cap, qu'importe le coût social.
La tronçonneuse est une politique d'État qui durera des années et qui ne s'arrêtera que quand elle sera arrivée à bout de l'État, sur le long terme.
Sous les applaudissements des élus de son parti, Javier Milei ouvre officiellement la session annuelle du Parlement et lance la campagne pour les élections législatives d'octobre. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Les porte-monnaies des Marocains, eux, sonnent parfois creux. Et ce, alors que commence le Ramadan. Alors, toutes les astuces et conseils sont bons à prendre à cette période. Et quelques jours avant le début de la période sainte, un poissonnier de Marrakech l'a bien compris. Sa recette, à un moment où la consommation grimpait en flèche, vendre ses produits de la mer a pris cassé sur les réseaux sociaux. Mathias Reynal.
Il annonce les prix du jour et est immédiatement acclamé par la foule.
J'achète les sardines à 4 dirhams et je les revends à 5 dirhams le kilo. Où est le problème? Tous les ports sont accessibles pour moi afin de fournir du poisson aux habitants de Marrakech. J'achète des poissons au port, directement aux enchères.
Depuis une semaine, Abdelila El Ajout, jeune poissonnier de Marrakech, est devenu une star des médias. À la télévision, sur les réseaux sociaux, il est partout. Très charismatique, il dénonce avec verve les marges exorbitantes des intermédiaires.
Tous les poissonniers peuvent vendre au prix que je pratique, à condition d'éliminer les intermédiaires. Moi, je n'achète pas chez eux. Au Maroc, il y a une abondance de poissons. Les plus démunis doivent pouvoir en consommer à un prix abordable.
Abdelila a suscité des critiques au sein de sa profession, certains dénonçant des propos décorrélés de la réalité. Cette affaire montre à quel point, en tout cas, les prix alimentaires sont devenus un sujet sensible dans le royaume. Après des années d'inflation et de sécheresse, le Ramadan, période propice à l'augmentation des prix, débute aujourd'hui au Maroc, alors que le pouvoir d'achat de la population est en berne. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
C'est l'une des périodes du calendrier les plus excitantes pour les cinéphiles. Après les Césars, vendredi en France, avec le triomphe d'Emilia Pérez, la cérémonie des Oscars, elle, va se tenir à Los Angeles, aux États-Unis la nuit prochaine. Là encore, le film du cinéaste Jacques Audiard est en lice dans 13 catégories. Hier, pour les passionnés de cinéma africain, ces passionnés avaient les yeux rivés sur le FESPACO de Ouagadougou au Burkina Faso, festival durant lequel a justement brillé un Burkinabé, le réalisateur Dany Kouyaté, qui a remporté l'étalon d'or du Yenenga. C'est le prix le plus prestigieux grâce à son long métrage Katanga ou la danse des scorpions. Juste le temps pour moi de vous donner un mot de football, de Ligue 1, le championnat français, ou le Paris Saint-Germain s'est facilement défait défait de Lille. Hier soir, 4-1. Les Parisiens qui comptent désormais 16 points d'avance en tête du championnat sur Marseille. Autre résultat, Nice s'est imposé à Saint-Étienne. Le Havre à Lens. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, il sera 9h10 à Paris, 8h10 temps universel. Merci d'écouter la Radio du Monde.